Nous l'avons tous entendu, et c'est bien ce qu'on trouve dans la Bible grecque, qui était en usage parmi les Juifs, hellénisés aussi, et parmi beaucoup de Juifs, à l'époque de Jésus et probablement pendant les deux siècles précédents. Nous sommes passés de « quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur » à « celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Elle n'a l'air de rien, cette différence. Alors quoi, ce serait une simple erreur de ponctuation? Ce n'est pas tout à fait impossible. La Bible hébraïque n'avait pas de ponctuation. Mais si c'est une erreur, elle n'est pas arrivée par hasard. Je pense en fait qu'au moment de la traduction en grec de cette partie de la Bible qu'on appelle les livres prophétiques, probablement vers le deuxième ou peut-être même le premier siècle avant Jésus-Christ, la spiritualité a profondément changé. La gloire du Seigneur, celle qui, selon Ésaïe, quelques siècles plus tôt, allait se révéler à tous, est de nouveau difficile à rencontrer en cette période d'occupation. Beaucoup attendent l'arrivée imminente d'un Messie. Ils vivent donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'attente messianique. Et parmi eux, certains ont déjà choisi, ou ils choisiront bientôt, de vivre au désert, pour justement, quelquefois en communauté, pour vivre leur attente d'une manière qui leur paraît plus authentique, pour expérimenter le manque qui creuse le désir de Dieu. Et Jean le Baptiseur est de cela, on le sait. Ce n'est pas surprenant donc qu'il ait été identifié, que lui se soit identifié et que d'autres l'aient identifié à ce messager qui crie dans le désert. Et d'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, même au long des fils des textes, au long des lectures de l'évangile, des évangiles, dans les textes eux-mêmes, il y a une évolution de l'utilisation de la citation quand elle est appliquée à Jean le Baptiseur. On est passé de « mon messager », celui qui crie dans le désert, ça c'est dans l'évangile de Marc, à « moi, je suis celui qui crie dans le désert » dans l'évangile selon Jean. Et le plus important, c'est bien ce cri qui, par un glissement de sens, est maintenant lancé dans le désert. Eh bien, je trouve que nous devons beaucoup à ce glissement de sens. Il donne au cri du prophète une intensité dramatique. D'abord parce que celui qui crie dans le désert, personne ne l'entend, personne ne lui répond. Il n'y a peut-être même pas d'écho. Comme l'a dit l'un des jeunes tout à l'heure, il se sent seul au monde. Alors bien sûr, beaucoup de questions peuvent se poser à nous. Pas des réponses en fait. C'est un texte, des textes, ce sont des textes qui, pour moi, suscitent des questions, mais des questions qui demeurent en nous, qui nous habitent. Peut-être que le prophète s'époumonne en vain, peut-être qu'il nous dit aussi que ce n'est pas forcément grave si personne ne nous entend, est-ce qu'il faudrait continuer à crier malgré tout? Et puis, voilà que par ce glissement de sens, le chemin qu'il nous exhorte à préparer, ces fameux sentiers que nous ne devons plus aplanir mais rendre droits, il y a bien sûr une connotation beaucoup plus morale, ce chemin n'est plus tout à fait le même. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Ces cris des prophètes Ésaïe et Malachie ont pris pour nous un sens aujourd'hui uniquement spirituel. Nous sommes invités à un cheminement intérieur, à un travail de retour sur nous-mêmes, à un dépouillement. Et bien sûr, ce dépouillement intérieur, Jean le Baptiseur vient nous en donner l'exemple, un exemple visible. En rappelant cette phrase d'Ésaïe, telle que la Bible grecque l'avait transmise, donc telle qu'il la connaissait, les évangélistes ont profondément façonné notre foi. Nous savons dès le début de la bonne nouvelle que Jean le baptiseur annonce Jésus, que ce Seigneur à qui il faut préparer un chemin, parmi nous et surtout en nous-mêmes, maintenant c'est Jésus. Jean le baptiseur, ce dernier prophète, on dit souvent de lui qu'il a un pied dans l'ancienne alliance, parce qu'il est habillé, en particulier parce qu'il est habillé comme son prédécesseur, le prophète Élie, décrit dans le deuxième livre des Rois, et un pied dans la nouvelle alliance parce qu'il est le premier à identifier Jésus au Messie. Eh bien, Jean a une grande autorité, il a sans doute des disciples, et on l'a entendu, quand il crie dans le désert, en réalité, les gens l'entendent. Toute la Judée, ou en tout cas un grand nombre de Juifs, viennent recevoir son baptême, cet acte qui pour eux est déjà une manière de préparer le chemin du Seigneur. Et pourtant, avant même qu'ils disent le nom de celui qu'il annonce, avant même qu'ils l'aient rencontré, en tout cas tel que ça nous a été raconté par les évangiles, Jean vient affirmer que sa propre autorité, à lui, Jean, n'est rien comparée à celle de Jésus. Ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. C'est une très belle image, une image que nous aimons bien sûr tous, que nous connaissons, qui nous a aussi façonnés. Une image qui elle aussi doit beaucoup au désert, ce lieu où il est impossible de marcher pieds nus. Mais à l'époque, si Jean l'a vraiment dit comme elle est, au moment où elle est dite et comme c'est raconté, eh bien, je me demande comment ceux qui l'ont entendue l'ont comprise. Elle devait paraître extrêmement étrange. Alors que pour nous, aujourd'hui, bien sûr, cette phrase fait partie de l'annonce, de la bonne nouvelle qui nous accompagne tous. Car dans la foi comme dans le doute, nous connaissons cette image, nous l'aimons, parce que, comme l'image de celui qui crie dans le désert, elle a façonné notre recherche personnelle et communautaire, notre désir d'annoncer et de servir, tout en sachant, comme Jean le baptiseur avec cette histoire de sandales, que nous n'en serons jamais tout à fait capables, jamais vraiment dignes. Ce commencement de la bonne nouvelle, il se vit plutôt mal en réalité. Il débute dans les cris et le désert, ce lieu aride où justement les cris ne reçoivent pas de réponse. Il se poursuit avec cette annonce magnifique, une histoire de sandales que personne ne peut comprendre à l'époque. Et plus tard, on pourra même penser que pour Jean le baptiseur, comme pour Jésus, l'aventure se termine dans la mort. Alors aujourd'hui encore, certains d'entre nous, en fait chacun d'entre nous, nous tous bien sûr, nous avons tous dans notre vie des moments de désert, des moments où nous crions en silence ou en faisant au contraire un peu trop de bruit pour qu'on nous entende. Un peu trop de bruit pour qu'on nous entende et un peu trop de bruit pour qu'on puisse nous entendre. Des moments en fait où nous nous préoccupons fort peu du Seigneur et de ses chemins, mais uniquement de notre propre désert. Et c'est là, peut-être, que nous avons un travail à faire. Et pourtant, ce que ces textes nous disent dans leurs traductions successives, à l'intérieur de leur histoire, ce que Jean le baptiseur savait bien, et ses disciples avec lui, c'est que c'est justement dans cette expérience spirituelle du désert, cette expérience dont on a entendu, je pense, qu'elle est à la fois littéraire et spirituelle et intérieure, dans cette expérience que nous pouvons faire également l'expérience d'une proximité avec Dieu. Dans cette histoire, dans l'histoire du texte même, au cœur de son évolution, nous pouvons nous aussi trouver l'espérance, parce que cette histoire nous dit que le désert est habité et que nos cris sont entendus. Celui que Jean le baptiseur attendait nous a rejoints. Il ne cesse de nous rejoindre, ici et maintenant, dans notre propre désert. Il est avec nous, dans les chemins que nous ne savons pas préparer pour lui, dans les sentiers tortueux que nous ne savons pas rendre droit. Il ne cesse de nous rejoindre dans le désert de notre humanité, pour que tous puissent voir sa gloire. Amen.